Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto, les dimanches de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, retour sur le championnat du monde de vitesse 2017, un championnat qui nous aura tenu en haleine de la première course au Qatar le 26 mars à la dernière épreuve dimanche dernier sur le circuit de Ricardo Tormo à Valence. Pour en parler avec nous aujourd'hui, eh bien les habituels les connaisseurs, des gens qui font des statistiques depuis des années, depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont 5 ans, Claude, c'est vrai, hein?
Pas 5 ans, non, mais un peu plus tard.
L'âge de 5 ans, pas 5 ans en arrière, hein, depuis l'âge de 5 ans. Voilà, alors donc Nicolas Poiret, on va commencer avec Nicolas Poiret.
Bonjour,
bonjour Nico. Ensuite, Claude, on vient de te présenter. Et puis, un autre invité, un autre Nicolas Langlas qui voulait venir participer à cette émission parce qu'il a, participé à deux grands prix. Enfin, il a participé en tant que spectateur, bien sûr, hein. Et il était à Seine et aussi au Grand Prix de France au Mans. Voilà, bonjour Nico.
Bonjour.
De Nico, là, ça va pas être facile.
Bonjour l'ami, bonjour les auditeurs, les auditrices. Oui, motocycliste passionné de GP, mais humble surtout, parce que quand on regarde ça, c'est toujours de loin. Et les critiques, il ne faut pas critiquer tel pilote ou siffler tel pilote, parce que ce sont tous des grands.
Et quelquefois, c'est même dur quand même de ne pas critiquer, de siffler un pilote.
Non, hein, ouais. Mais ce sont des pilotes, et ouais. Moi, quand je regarde tout ça, je dis que ce sont des grands, et que ce sont même le dernier vaut le coup d'être applaudi, quoi. Nous ne sommes pas dans le football, il ne faut pas oublier.
Voilà, très bien, il faut rester humble dans la moto. Voilà. D'autres invités, eh bien, c'est Olivier, le mécanicien, et Cédric Fievé, qui participe au championnat SB Cup, Bene Cup, Belgium-Hollande. Cédric, bonjour.
Bonjour l'ami, bonjour tout le monde.
Donc toi tu vas nous donner ton avis, mais du côté pilote en fait, hein, parce
oui.
Que quand même c'est déjà un niveau relevé quand même.
Si je peux vous renseigner le mieux possible, ça sera avec plaisir.
Voilà. Et puis il faut dire aussi que on est filmé.
Oui. Donc alors vous êtes en direct.
C'est vrai qui est professionnel de la caméra.
Écoutez, bon.
Facebook là.
Voilà.
Donc on fait
un petit direct sur notre page Facebook. Donc rendez-vous sur ma page Cédric Fievé. Voilà.
Voilà, très bien. Voilà, on revient un petit peu tout de suite sur ce qui s'est passé dimanche dernier là. Franchement, en tant que Français déjà, nous on est un peu, scotché. On dit c'est pas possible. Ça va être la première victoire de Zan Zarco qui. Qui a mené la course pendant pratiquement 98% du temps, presque.
Oui, à deux tours de la fin, franchement, tout le monde y croyait encore. Hein, mais bon, il y a Pedrosa, c'est son circuit où il gagne pratiquement tout le temps. Cette année, Pedrosa avait fait trois belles courses sur toute l'année. Et Valence en faisait partie, et malheureusement pour Zarco, il l'a doublé deux tours avant.
Alors, Zarco, il y a un petit peu problème, c'est en fin de course, on a remarqué quand même.
C'est le problème de tout le monde.
Lui, plus particulièrement quand même.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus à l'aise sur des pneus tendres, donc en fait, il souffre peut-être un petit peu plus en fin de course. Mais là, je pense que c'était pas seulement ça, c'était que Pedrosa était vraiment avec un rythme supérieur. Il pouvait y aller. Et puis, je pense que il était devant, mais Marquez, il joue un petit peu avec lui. Il l'a laissé devant parce qu'il avait l'enjeu du championnat.
Oui, mais Nico, à un moment, Marquez essaie de repasser. Il repasse Zarco et il perd à la faute. Mais alors, je sais pas comment. Alors, je sais pas comment il se récupère. Mais il a de la chance. Il a une chance pas possible.
C'est du grand Marquez.
Parce qu'il se récupère sur le genou et sur le coude.
Ouais, voilà,
en fait, c'est l'équilibre se fait comme ça.
Oui, il pousse d'abord le coude, enfin l'épaule, le coude et le genou, et il récupère. Il passe dans les graviers, tout le monde s'enfonce, lui, il survole.
Il survole, et
il retrouve la piste.
Et
il finit sur le podium.
Attention, il faut rappeler aussi les circonstances. Hein. Si jamais il chute, il ne peut pas repartir.
Oui, mais non, il y avait 21 points d'écart. Il fallait forcément que Dovizioso gagne.
Il fallait que Dovizioso au moins.
Il y aurait 4 points de différence. Points de différence. Ouais. En fait, si Dovizioso gagnait, il y avait 4 points de différence. Donc, il y avait 21 points d'avance au dernier Grand Prix sur Dovizioso.
Alors, et qu'est-ce qu'on peut dire un peu du comportement de Lorenzo?
Alors, moi j'ai trouvé qu'il a bouchonné. J'étais étonné parce que après la course, Dovizioso, comme Lorenzo disent, Lorenzo il dit ben, j'ai essayé de lui montrer la roue pour essayer qu'il raccroche et tout ça, et c'est pas du tout ce qu'on voyait. Donc j'ai re-regardé la course et en fait quand on regarde bien, Dovi était 9e sur la grille et Lorenzo 4e. Et en deux tours, Dovi réussit à arriver derrière Lorenzo, les deux premiers tours. Il avait même eu un moment le meilleur tour en course. Donc il était rapide. Et après, il était bouchonné. Et donc ça, c'est, pour moi, c'est évident qu'il était bouchonné.
La seule chose, c'est que Dovi n'a jamais attaqué Lorenzo. Jamais. Il était derrière.
Disons qu'il lui a fait des blocs passes dans tous les virages. Hein, la trajectoire, c'était la bonne. Et donc forcément, pour passer après, il faut vraiment être fort. Mais... Et là, je m'adresse au pilote. Oui. Cédric, ça va aller pour le
Facebook? Ouais, merde, mais c'est pas grave.
Ça merde, c'est... Oh, c'est pas grave.
Ça va le faire après, t'inquiète.
On a regardé le Grand Prix ensemble. Hein,
oh,
et puis Lorenzo, tu m'as dit, tiens, regarde, on lui demande de passer en map. Alors map, c'est
map
c'est, explique un petit peu ce que c'est que c'est les maps.
C'était bidon, c'était juste le panneau, un nom de code non, pour faire passer. Pour
le panneautage, c'est map 8, map 10, map... Alors explique un petit peu ce que c'est ça.
En fait, ce qu'on peut expliquer les choses, c'est que au niveau... au niveau du team, c'est-à-dire au niveau du panneautage, on peut indiquer maintenant directement sur la moto ce qu'on doit mettre, ce que le pilote doit mettre.
Ah, c'est le team qui envoie l'information sur la moto.
Donc sur le Dodge Bar, on voit, le pilote peut voir, mettons, qu'à l'intérieur du team, on lui demande de changer de mapping par rapport aux conditions, par rapport aux pneumatiques. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on lui dit, je pense que ta map Intel fonctionnerait mieux, tu irais plus vite ou tu irais moins vite.
Donc ces maps, c'est un système qui dit
de changer. Donc le pilote, par contre,
ça change la puissance de la moto.
Voilà, ça peut changer plusieurs choses. Voilà, donc au niveau de l'antipatinage, au niveau de la puissance de la moto. Donc voilà, ça, c'est-à-dire que par contre, ils peuvent pas agencer de réglage directement du paddock à la moto. C'est vraiment le pilote qui doit faire le réglage là. Donc quelque part, ils ont voulu se servir, à mon avis, de ce mapping 8 pour expliquer au pilote, là, faut que tu te mettes
un nom de code en fait.
Ou alors un code.
C'est un nom de code, c'est-à-dire qu'il pouvait pas mettre sur le tableau de bord l'espace passer Dovi. Donc il lui avait dit, si jamais il est derrière toi, on met map 8, ça voudra dire laisse le passer.
Voilà.
C'est un nom de code.
Parce qu'on l'avait sur l'écran, on voyait les ordres du team.
C'est ça. C'est ça. C'est ça.
Qui ordonnait à Lorenzo de dire, tu passes en map.
Et je sais pas si vous voyez la course juste avant. La course juste avant cette course de Valence, c'est pareil, on lui a indiqué
oui, la même chose, mapping
8 aussi oui. Et ça pour laisser passer aussi de
vos donc c'était un code interne à Ducati. Mais ouais. le problème, il y avait aussi le panneautage. Sur le panneautage, on lui disait perd une place, moins 1.
Oui, il y a des panneautés à la fin.
Et on lui mettait Dovi 0-0.
Alors.
Moi j'ai trouvé que cette insistance, elle a desservi tout le monde. Elle a desservi Ducati parce que un team officiel qui donne des ordres à ses pilotes, c'est pas très glorieux. Et ça a desservi Lorenzo parce que Lorenzo savait très bien ce qui se passait. Il a fait le con et il y a un côté hautain chez lui et il a pas voulu s'exécuter.
Moi je vous pose la question.
Donc ça, je trouve ça a desservi de donner une mauvaise image aux deux.
Tout le monde.
Alors que la saison était magnifique.
Souviens-toi. Alors, il y a deux ans à Crossy. Est-ce que c'est pas... Alors, il y a Nicolas, notre Nicolas qui veut poser la question. Prend le micro.
Alors, je vais vous dire un truc. Dans la presse, Dovizioso s'est pas plaint du comportement de Lorenzo. Au contraire, il a dit, j'étais bien dans sa roue, j'étais derrière, et c'était très bien.
Dovizioso, c'est un gentleman.
Il s'est pas plaint du comportement.
Il devait gagner dimanche dernier.
Mais
il dit qu'il était à la limite partout.
Non, il n'avait pas le rythme, non.
Il dit qu'il était à la limite partout et que Lorenzo, justement, devant lui, ça l'aidait un peu.
Est-ce que c'est pas un prêté pour un rendu?
Attention, parce que...
Est-ce que c'est pas un prêté pour un rendu, Lorenzo? Souvenez-vous, il y a deux ans, avec Rossi.
Je sais pas, mais
Mais Rossi pouvait rien faire non plus, il était un échou.
Il a été bouchonné par Marquez le Grand Prix précédent. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé en fond de grille, Rossi, il y a deux ans.
Peut-être.
Parce qu'il lui a balancé un coupier.
On se souvient un peu de l'affaire, hein, quand même. Alors, et pour laisser gagner, Lorenzo qui est devenu champion du monde.
Tu voudrais dire que Lorenzo a fait ça pour laisser gagner Marquez?
C'est la question que je pose.
Alors, on peut se poser la question, mais...
Ouais, j'ai vu ça dans les sites, hein, vu ça sur des...
Ça s'appelle la tragédie du complot.
Je vous pose la question, Cédric.
Mais en fait, ni l'un ni l'autre n'avait les moyens de...
Toi qui es pilote, est-ce qu'éventuellement, chez, chez BMW. Maintenant, tu es tout seul, de toute façon. Toi, t'es pas
oui,
de,
vous oui
pas
mais il y a quand même des tactiques de course et des tactiques de championnat. Il faut savoir que dans le MotoGP, il y a tellement d'argent qu'à un moment donné, bah, ça prime quand même au-dessus du pilotage. Alors, ce qui est quand même dommage pour Lorenzo, même si bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment bien Lorenzo, mais c'est un grand, grand pilote. Il faut admettre que laisser passer quelqu'un qui roule moins vite, parce que comme il disait, voilà, forcément, Dovizioso, il n'a pas essayé de passer devant. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, pour les tactiques de course et les tactiques de Ducati, je veux bien comprendre que Dovizioso devait être devant, mais ça n'aurait rien changé par rapport à Lorenzo. Lorenzo l'a bien compris. Il ne faut pas croire que Lorenzo l'a bien vu le pernotage, a bien vu le Dodge Bar.
Il l'a vu.
Voilà, c'est certain.
Bientôt, il y avait le commentaire de Randy Dupuis qui disait il ne voit pas le pernotage, il ne voit pas son tableau de bord, il ne voit rien.
C'était tellement
surtout
insistant.
À ce niveau-là.
Alors, s'il ne voit pas, il faut qu'il mette des lunettes. Hein.
Il savait avant le départ le problème. Donc, tant que Marquez était tranquille devant, il voyait pas la raison puisque Marquez avait course gagnée quoi.
Bah oui. Ouais.
Oui, mais alors ça c'est le problème, c'est que tout ce au début la course elle se passe bien sûr on a notre Français qui était devant. Alors là forcément pour nous après
très vite
ça y est
très vite Zarco a pris la
donc
tête,
on a pris tout de suite voilà. Et mais après moment quand Marquez chute, là on se dit oh là il va se passer des choses quand même ça remet un petit peu de piment dans la course quand même hein.
Ah oui, c'est sûr, c'était incroyable. On a eu un championnat depuis 2 ans. Il faut dire quand même que la Dorna, les mesures qu'ils ont prises ont des résultats. Les Grands Prix sont passionnants. Ça a un petit peu redonné les chances à tout le monde. Et c'est vrai que c'est magnifique.
Oui, Nicolas, l'autre ligne de Nicolas, dans glace.
Moi, je pense que surtout qu'il y a une histoire de pneumatique aussi dans tout ça. Et le fait qu'il y ait des circuits qui sont favorables à certains pneus et d'autres moins. Et le boîtier électronique unique aussi, ça a joué beaucoup. C'est vrai que ça donne des courses formidables. Voilà quoi. Qu'est-ce que je vais dire d'autre je sais plus, ça m'en viendra après.
On a interviewé aussi Marquez. Pourquoi il était sorti? Et il a bien dit, quand j'ai passé Zarco, je savais pertinemment qu'il allait essayer de me redoubler.
Oui, il avait
donc
peur,
il dit,
en fait.
J'ai freiné trop tard. Ouais. C'est bien une raison aussi de dire que Zarco était quand même bien.
C'est ça, et je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il était dans un faux rythme aussi. Hein. À mon avis, il suivait Zarco, on est bien tous d'accord qu'il l'a laissé passer, hein. il s'est retourné.
C'est la première fois qu'on voit Marquez se retourner d'ailleurs.
Non, souvent.
Il se retourne
souvent.
De là à laisser passer quelqu'un, bon voilà. Enfin bref, je suis d'accord avec lui, c'est un champion et sa tactique est bonne. Mais le fait de rouler derrière quelqu'un, forcément, on perd un rythme. Bon, c'est un rythme de dixième, trois dixièmes au tour, hein, mais voilà.
Moins concentré.
Voilà. Il l'a doublé et à partir de là, son pneu peut-être gauche était un petit peu plus frais. Je dirais, voilà, ça joue sur 5-10 degrés. Mais forcément, il tape un gros freinage avec un pneu qui est en dessous de sa température. Et c'est là qu'il perd l'avant. Bon, bien sûr, c'est Marquez, quoi. Impressionnant au niveau des rattrapages, comme vous avez dit, quoi. C'est dingue.
C'est un coup de bol, c'est pas possible.
Mais
c'est pas un coup de bol.
Il l'a fait plusieurs fois. Il est seul à réussir à le faire.
On l'a vu, il se récupère sur le genou et le coude.
Il suffit de regarder les essais.
Oui, en Malaisie. Il l'a fait en Malaisie. Il a fait plusieurs fois
les essais, c'est ce qu'il a fait.
Il était par terre complètement, il était carrément par terre. Coup de genou, il est remonté sur la moto en marche et est reparti.
Le coude et le genou.
Ouais. 27 chutes dans la saison. Hein. La Honda n'est pas si facile que ça. D'ailleurs, Crutchlow et Pedrosa ont du mal avec. Hein. Donc, je pense que c'est une moto qui n'est pas si facile, mais il est tellement excellent qu'il arrive à en tirer vraiment le maximum.
Voilà, bon. On est en train de filmer là, comme on répète un petit peu Cédric, parce que moi j'y connais rien.
Donc lui sur Facebook, sur ma page, donc Cédric Fievé tout simplement. Et donc on est en direct, on
sur
vous fait
Facebook,
le petit coucou.
Cédric Fievé.
Oui, voilà.
Allez, bonjour Laurent, tiens en fait.
Eh bien bonjour à tous.
Bonjour Laurent. Sommaire assez long quand même aujourd'hui.
Eh bien on va mettre le générique de fin.
Allez, musique.
Et on commence avec un petit hommage, vous comprendrez.
Ah oui, oui. Ah ben oui. We'll be right back.
Le magazine de la moto sur Campus, tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui, on retourne sur ce championnat du monde 2017. Mais vraiment, un championnat qui nous a tenu vraiment en haleine. Alors, surtout nous, les Français, parce qu'avec ce pilote, là, Yann Zarco, là, incroyable. Je me souviens qu'on a fait l'émission au mois de mars pour la première course au Qatar. On se disait, bon, bah, il va mettre un an pour déjà essayer de prendre contact avec la machine, quoi, ouais. la MotoGP, hein. Et ben, alors au Qatar, attention, il prend le départ, il est en tête.
Ouais. C'est là qu'il nous a fait vibrer
d'emblée
tout ouais. le championnat.
Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
On pouvait croire que ça allait être un feu de paille.
En plus.
Ouais. Et c'est vrai qu'on se disait que avec deux titres de Moto2 en poche, hein, deux fois champion du monde Moto2, il allait pas être ridicule. Mais de là à faire la saison qu'il a faite, on n'y croyait pas, non. C'est vrai qu'on a, les Français là, on s'est régalé cette année. Hein, il nous a enchanté, hein, Johan Zarco. C'est vrai que c'est incroyable. Trois podiums, deux pôles, deux deuxièmes places. C'est lui qui a fait le plus grand nombre de tours en tête après Marquez. Hein, 64 tours en tête sur Marquez en a fait 90. 4 meilleurs tours en course, et là, c'est vraiment incroyable cette saison.
Et surtout une chose, c'est que dans l'ensemble de la saison, en course, il n'y a chuté une seule fois.
Oui, c'est ce que j'allais dire par rapport à Marquez qui chute quand même pas mal aux essais.
En course, il n'y a jamais chuté. Ouais. La seule fois où il a failli aussi ne pas marquer de points, c'est quand il est tombé en panne d'essence.
Quand il a poussé sa moto.
Il a montré à tout le monde qu'il en voulait, parce qu'il a poussé quand même sur plus de 400 mètres sa moto, et il a fini 15e, à marquer un point.
Ouais. Ah, Ponchara, il dort plus, hein. Il dort plus. Ça y est,
depuis qu'il est, depuis qu'il a Zarco, quand il se retourne, il souffle.
Il a des cernes en dessous des yeux. Il prend des cachets maintenant. Il a doublé la dose.
Ouais, Lamiche, petite anecdote de Mieland que nous avons rencontré à Coupe Moto Légende et qui nous a dit, on a eu Ponchara au téléphone, donc Pompon. Pour les intimes.
Oui, c'est Pompon qu'on l'appelle alors. Ouais. Voilà.
Il est au bord de la crise cardiaque à chaque course.
Il va nous faire une crise cardiaque, voilà. Effectivement.
Il dit c'est le meilleur pilote que j'ai
eu. Et surtout, une chose, c'est qu'il faut se dire qu'au début de saison, il y avait deux pilotes qui marchaient bien. Parce que Folger, quand on regarde son parcours,
très bon.
Il finit 10e du championnat en ayant en faisant que 11 Grands Prix. Hein.
Ouais. Il a failli gagner en Allemagne en plus.
Et il a failli gagner en Allemagne parce qu'il se battait avec Marquez. Et bien.
À la régulière.
Et à la régulière.
Il souffre d'une maladie.
On ne sait pas trop.
C'est un peu la maladie comme Casestoner.
Qui ça?
Folger.
Il y a des accents de faiblesse.
Mais ça se soigne.
Une petite parenthèse, Claude, il y a ton frère qui vient d'arriver dans les studios. Un autre bon duel. Bonjour Balou.
Bonjour à tous.
Voilà. Donc on continue donc sur Yann Zarco. Est-ce que on sait que Rossi normalement ce serait la toute dernière saison l'année prochaine, bien qu'on ne sait pas trop quand même.
Hein. Non, on ne sait pas. Hein.
Il a dit que l'année prochaine. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir Yann Zarco prendre la machine de Valentino Rossi?
Alors pour Zarco, il y a KTM qui aimerait bien récupérer Zarco parce que Zarco a déjà fait ses preuves sur KTM.
Mais moi j'ai une petite info aussi. Il y a le sponsor principal qui lui aimerait bien récupérer
Marquez
parce que c'est le même, c'est le même sponsor.
Oui, mais comme dit le PDG de chez KTM, si Marquez y gagne, c'est bien pour la marque. S'il perd, on dira que c'est la moto. Donc
Alors la marque qui fait vraiment la grosse erreur, c'est Suzuki, hein. Parce que souvenez-vous,
il y avait un pré-contrat
avec Suzuki, Yann Zarco.
Ils l'ont
laissé tomber.
Ils ont choisi Rins, était plus jeune.
Oui, Rins plus jeune.
Parce que Zarco, il avait 27 ans, hein, donc.
Est-ce que vous pensez qu'avec la Suzuki, Yann Zarco aurait pu faire la même chose qu'avec la Yamaha?
J'en sais rien. Là, je peux pas.
On ne sait pas. Elle marchait bien.
Avec Pinales, elle marchait bien la Suzuki.
Elle marchait bien, oui.
Oui, mais ça, ils ont changé pas mal de choses en début de saison et personne. À qui confier, parce que Iannone s'est perdu dans toute la structure interne, et ils n'avaient qu'un seul pilote, parce que Rins, il s'est fracturé quelque chose juste avant de commencer la saison, il l'a traîné la moitié de la saison, et pour lui, c'est un bon pilote, parce que la fin, quand même, il a montré quand même des bonnes choses.
Mais je crois que, quelle que soit la moto, Zarco, il a un truc en plus au niveau mental, hein. Il a étonné tout le monde là-dessus.
Voilà,
il positive tout ce qu'il fait, il travaille énormément, il a un but énorme, il a une ambition qui est d'être champion du monde, il s'en cache pas, il ose le dire. Quand un rookie qui vient d'arriver sur le championnat dit « je veux être champion du monde », on se dit « il se la pète », mais lui, il montre qu'il fait tout pour.
Il y en a beaucoup qui disent ça.
regarde Quartararo quand il arrive en Moto 3, il dit de toute façon je vais gagner le championnat 3, 2 et après je serai en Moto GP.
Il n'a jamais dit ça, c'est les autres qui l'ont dit.
On a eu énormément de pilotes français qui sont arrivés au début de saison et alors on avait des pages dans Moto Journal, Moto Revue, bientôt champion du monde et puis en fin de saison c'était la catastrophe. Alors il faut arrêter de pomper et puis il faut les laisser faire. Leur mettre la pression.
Je ne sais pas si vous avez vu les deux jours de test après la course.
Valence, oui, Valence.
Ouais. Donc si on peut voir, en fait, à la fin des deux journées, il y a quand même Zarco qui était dans les trois premiers. Ouais. Et donc au début, il a continué de rouler avec la 2016. On est bien d'accord qu'en 2017, roule avec la 2016. Et la deuxième journée, il a roulé avec la 2017. Voilà. Et vous avez vu son classement, il était quand même dans les trois premiers. Quoi ?
On a dit, c'est vrai que la 2017 marchait moins bien que la 2016.
Faut m'expliquer.
Et apparemment, la 2017, il fait un super temps.
On est d'accord.
Tout à fait.
Donc, votre question avec la Suzuki. Bah moi je dis pourquoi pas. Moi je pense que Zarco il sait bien travailler parce qu'il travaille,
c'est un bosseur.
Parce que moi je me rappelle en Moto 2 il galérait beaucoup les débuts d'année, il était dans les bas de classement, il est monté tout doucement et à un moment donné il était là-haut, mais il a tellement bien travaillé que ce qu'il a acquis automatiquement il l'a gardé. Et là il fait le même travail au MotoGP et ça lui permet d'être dans les hauts de classement dès le début, et je pense qu'avec toutes les motos il pourrait y être. Sauf qu'il devrait travailler peut-être un peu plus ou un peu moins, mais par rapport à son boulot, écoute, moi je dis chapeau bas et il peut être dans les hauts classements avec n'importe quelle moto.
Et toi qui es pilote, est-ce que tu penses qu'on peut gagner un championnat du monde avec une moto privée?
Écoutez, oui, moi je pense que oui, surtout lui, parce que c'est un travail acharné. Faut imaginer Zarco ce qu'il fait avec ses ingénieurs, avec tout. Il travaille tellement bien que forcément il y a du boulot derrière. Maintenant, je dis pas que les autres pilotes travaillent moins bien, mais lui, il a trouvé une ligne de conduite qui fonctionne très bien pour lui. Et pour son team.
Et en plus, il a un pouvoir d'analyse qui est au-dessus du lot. Hein. Voilà, il arrive vraiment à expliquer ce qui va, ce qui ne va pas. Ça aide beaucoup.
C'est vrai. Est-ce que tu penses que Yamaha, quand Rossier s'est cassé la jambe, et qu'on a vu que Vinales, il était en perdition, là, parce qu'on peut dire ça, hein, pratiquement. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui s'est passé là. Ouais. Que Yamaha a peut-être aidé un peu le team Tech 3.
Non, ils peuvent pas, c'est la moto de l'an dernier.
Il
lui a enfilé un carénage.
Il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. C'est comme la F1, c'est quand même le MotoGP, c'est identique à la F1, un petit peu moins d'argent, forcément beaucoup moins d'argent, je dirais même. Mais il faut imaginer qu'en MotoGP, il y a les grosses structures, comme Yamaha officielle, Suzuki officielle, enfin voilà. Les grosses structures ne vont pas donner toutes les bonnes infos, toutes les bonnes pièces. Mettons comme là à Tech 3, c'est pas possible.
Ça va même plus loin. C'est intéressant parce que c'est un team français avec un pilote français, donc on apprend beaucoup beaucoup de choses, et on apprend des choses que je ne savais pas. C'est des choses incroyables. Donc effectivement, Zarco a roulé sur la moto de Rossi de l'an dernier, la 2016, voilà, la M1 2016. Seulement, par contrat, quand il la donne à Tech 3, il l'ampute de 1000 tours. Elle est bridée de 1000 tours par contrat, qu'ils n'ont que 5 moteurs à leur donner. Pour avoir les 5 moteurs qui tiennent le coup toute la saison, hybride demi-tour. Et donc, en fait, Zarco s'est retrouvé 5 fois devant Vinales et Rossi avec une moto bridée.
Attention, les 1000 tours sont très importants pour les lignes droites. Hein. Les sorties de courbe, de toute façon, ils s'en serviraient peut-être pas.
La sortie de virage, c'est important.
Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. C'est exactement ça.
Et une preuve que Zarco a quand même son mot à dire, c'est qu'au premier Grand Prix, si vous vous souvenez bien, il a fait changer ses pneumatiques pratiquement sur la ligne de départ. Quand il est parti, tout le monde s'est dit « Pourquoi il a mis ça ?» Et c'est de lui-même qu'il a fait ça. En se disant non, je serais mieux avec ces pneus-là. C'est pas ce qu'on avait demandé de lui mettre. Donc il a fait changer.
Et ça plaît pas à tout le monde, hein, ça, parce que quand il demande de changer les pneus, on lui dit attends, regarde les autres, ils sont avec ça, pourquoi tu changes ?
Mais sauf que maintenant, les autres font attention à ce que Zarco met.
Oui, c'est l'inverse.
Voilà, maintenant c'est un peu l'inverse. Par contre, il s'est quand même bien loupé à la Seine, Nico. Toi, t'étais là en direct, il avait fait la pole à la Seine, on espérait grand chose, et puis il s'est bien planté avec les pneus.
En fait, nous, on a été au Mans, et Rossi est tombé, on était déçus, parce que moi, j'aime tous les pilotes. tous, sans exception.
Mais on aime tous les pilotes. Ah, hein, mais, ouais, mais bon,
faut pas l'oublier, moi. Moi, je regarde tout ça.
Il y a des comportements qu'on trouve bizarres.
Mais un motard lambda, quand il regarde ça, c'est le paradis, quoi. Et donc, Rossi était tombé, on était un peu triste, et on a dit on va à la Seine parce que c'est son terrain et c'est un peu son jardin. Il a gagné. Et bon, j'ai pas trop prêté attention à ce que Zarco a fait ce jour-là parce qu'on avait envie de Rossi. On aime bien voir Rossi gagner quand encore quelques courses. C'est lui qui tient un peu le MotoGP quand même.
C'est vrai, voilà, quoi.
Donc, c'est vrai. Et c'est vrai que Zarco, il avait un peu cafouillé ce jour-là, mais on lui en veut pas parce que les autres courses étaient très belles.
Au Grand Prix de France, justement, le combat Rossi magnifique, avec Vinales, c'était superbe. Les derniers tours, c'était vraiment... On se demandait où ça allait finir.
Et on peut dire que...
Dommage, oui.
On peut revenir sur le Grand Prix de Malaisie ou en Australie, là. Où franchement,
c'était la folie.
Là, c'était la folie, quoi. Quand on a vu que les carénages étaient brisés, parce que ce sont des coups de coude... Et ça se passe quand même à 300 km/h.
Oui, c'est ça. Mais il faut en voir un
Cédric, je ne sais pas si tu fais ça, là, en Bene Cup.
Ah ben en fait en tant que pilote, j'irai qu'on se rend pas compte vraiment des choses au début. C'est vraiment en regardant les images ou en se disant regarde tiens la combinaison, la moto, oh là ouais, il y a eu quelque chose. Mais sur le coup, sincèrement, toutes les motos vont à la même vitesse. Vous prenez un départ, vous avez 30 motos d'extérieur, c'est impressionnant à voir parce que forcément les motos tous passent tous en même temps au même virage, mais nous on est pris dans la meute, on n'a pas cet effet là de différence de vitesse entre les pilotes, on va pratiquement tous à la même allure, donc quand on se touche on se touche, mais on se rend pas compte de la vitesse, donc c'est vrai que c'est pas évident en tant que pilote de voir ça, on s'en rend compte après la course, oui. Quand on voit les vidéos, oui. Les photos et surtout l'état des motos.
Tu dis, c'est pas possible que j'ai fait ça.
Ouais, c'est ça. On dit, tiens.
C'est franchement,
ok, bon, on va passer à un morceau de musique et après on va retrouver Philippe Bidot, c'est le rédacteur en chef de La Vie de la Moto. Voilà, okay. Musique.
We'll be right back.
Au téléphone, nous avons Philippe Bideau, rédacteur en chef de La Vie de la Moto. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
On va parler de la 20e édition du salon Moto Légende, qui va se dérouler à partir de vendredi. C'est
oui,
une nouveauté.
À partir de 11h, oui.
Donc ça va commencer à 11h. C'est pour la 20e édition ou ce sera désormais le cas toutes les années?
Oh, on va essayer de reconduire ça parce que souvent on a eu le reproche d'ouvrir trop tard. Donc avec les CRTT aujourd'hui en France, on sait bien que les gens peuvent poser un vendredi et profiter un petit peu plus de la manif, quoi. Donc voilà où est l'idée, quoi.
D'accord. Le thème cette année, c'est Indian.
Oui, Indian, avec une expo des modèles emblématiques. Jusqu'au dernier modèle, Indian, une marque qui a ressuscité plusieurs fois.
Oui.
Et là, on pourra à peu près embrasser toute la gamme.
Par contre, il faudra que tu essayes de pas bouger parce qu'on te perd au téléphone.
Ah oui, j'avais demandé.
Là c'est bon, tu ne bouges, tu restes immobile, comme une statue, comme la statue de la liberté. Voilà, tu restes comme ça.
Et là, je suis collé à la vitre.
Oui, je suis désolé, tu restes collé à la vitre. Là, c'est très bien. Donc, on disait, donc, parce qu'on t'a pas bien entendu, hein, donc Indian, oui. la marque qui est invitée cette année.
Oui. Donc je répète ce que je dis. On pourra, en grosso modo, embrasser toute la gamme depuis que la marque existe, parce qu'on s'est évertué à vous m'entendez là ?
Oui, là c'est impeccable. Oui,
impeccable.
Super. Parce qu'on s'est évertué à regrouper les modèles phares depuis le début du XXe siècle, hein, jusqu'à nos jours, hein, puisque la marque a ressuscité plusieurs fois et existe encore. Oui. Aujourd'hui, ils proposent des modèles qui sont très très classiques dans le look. Donc voilà, on va voir tout ça d'un seul coup.
Très bien. Et,
notamment grâce au musée Basse-Terre de Rion,
oui.
qui nous apporte des modèles exceptionnels, quoi. Des 4 cylindres. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais.
Très bien. Il va y avoir aussi une exposition de motos tout-terrain avec la 500 XT j'ai un trou de mémoire.
Je peux poser une question.
Neveu.
Non, pas le neveu.
Uber.
Non. Aide-moi, Philippe.
Jean-Claude Olivier.
Voilà, merci Nicolas. Voilà.
Ouais, c'est pour fêter avec Yamaha les 40 ans de Rally Raid.
Voilà.
Et tout ça juste à quelques jets de pierre du départ du Dakar. Bon, même si le Dakar a beaucoup changé. Mais il y aura pas mal de bécanes, y compris le dernier proto Yamaha, le T7. Celui qui a servi de base au MT qui est dans les tuyaux, quoi, qui a été exposé récemment à l'ECMA. Là, c'est pareil, hein, c'est une expo qui va fédérer les générations. Hein.
D'accord. Adrien Van Beveren sera présent.
Oui, et il dédicacera, a priori. D'après ce que les dernières infos qu'on m'a données, c'est le vendredi à 18h ou 18h30. À confirmer ça quand même, il faut se connecter sur notre site internet pour avoir les dernières infos, quoi. Y a aussi une belle nouveauté cette année, c'est une vente aux enchères.
Ouais, alors j'allais en venir. Oui.
Alors je te laisse.
Donc c'est une nouveauté, donc il va y avoir une soixantaine de machines à vendre.
Oh, plus que ça, puisque...
J'ai vu 70 machines, plus que ça.
Ouais. Au total, le nombre de lots, il y en a 140.
140, d'accord.
Ouais. Il y a 140 lots. Alors, il n'y a pas que des motos complètes. Il peut y avoir pas mal de lots automobilias, ce qu'on appelle automobilias. C'est-à-dire, il peut y avoir des dessins, des tableaux. Il peut y avoir des pièces, et notamment dans les pièces. Un moteur qui est quand même assez exceptionnel. Enfin, ça m'a sauté au visage quand j'ai lu la liste. C'est un moteur de Cevitam. Cevitam, c'était quand même un proto qui a été étudié pour l'armée pour la Seconde Guerre mondiale. Et on connaît très très peu de machines de ce type-là. Donc le fait qu'il y ait un moteur qui ressort comme ça d'un coup, c'est assez...
D'accord. Et cette vente, ça va se passer dans un pavillon juste à côté du salon.
Oui, un pavillon qui jouxte le salon. Bon, c'est tout près à pied, hein. Ça se fait facilement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de lots que on a fait une exposition avec toutes les bécanes d'avant-guerre qui sont à vendre.
Donc on pourra aller voir à partir du vendredi, on peut visiter un peu ces machines qui seront vendues.
On peut visiter ça, bien sûr. Ouais. C'est au pavillon. Le nom m'échappe.
Ça arrive, tu sais, moi c'est
la Chaînée du Roi.
La Chaînée du Roi, oui. Ouais.
La vente, elle a lieu le samedi 16h.
16h.
Donc moi j'y serai parce que c'est hyper marrant à voir ça. Et puis c'est intéressant de voir s'il y a des gens qui sont là pour. Qui ont eu l'info et qui sont là pour acheter. Quoi. C'est toujours marrant de voir. Quel prix ça fait au final, quoi.
Ouais, final. Donc il ne faut pas oublier aussi les clubs, l'exposition, un nombre important de clubs qui participent aussi à ce salon.
Une soixantaine de clubs.
C'est ce qui fait aussi l'animation, aussi, c'est ce qui est important.
Oui, avant tout, d'ailleurs. Parce que là, il y en a vraiment pour tous les horizons. Nous, on a vu, parce qu'avec la 20e édition, vous doutez bien que on a vu monter ce tissu associatif qui se renforce énormément à partir des années 90, qui continue à grimper dans les années 2000 et qui ne cesse d'évoluer finalement parce que les motos concernées aujourd'hui ne sont pas les mêmes du tout qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a des clubs GSXR qu'on n'avait pas il y a 20 ans.
Ben oui.
C'était pas encore ancienne.
C'était
les motos d'occasion. Et là, pour donner une idée, justement, le GSXR première génération, c'est 30 ans.
ça commence à faire un peu. Ça fait de l'âge.
C'est un anniversaire, un anniversaire.
Voilà.
Et la dernière R8, parce que c'est un moteur qui a longtemps été refroidi comme ça. Le 1100, c'est 92, donc 30 ans déjà.
Et dans 30 ans, on aura des RCV, alors ces motos.
C'est bien possible.
L'occasion. Voilà, très bien. Et donc aussi, on n'oublie pas aussi la bourse, la bourse d'échange qui est juste derrière le pavillon.
Et puis là, c'est vraiment devenu un rendez-vous de fin d'année, quoi. Quand on suit les visiteurs, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils entrent par l'expo, ils foncent à la bourse. Et après, ils reviennent.
D'accord.
Et c'est vrai que on a à peu près, entre les pros et les particuliers, on a environ 300-350 exposants les bonnes années. Ça permet quand même d'acheter des matières premières pour restaurer les motos, ou même de trouver des motos. Ça permet d'acheter chez les pros des refabrications de pièces pour entretenir sa bécane. Enfin,
Mais c'est conséquent quand même, la bourse.
C'est une belle bourse en Île-de-France.
Le seul problème, c'est pour se garer.
Oui, il faut marcher.
Ou
alors, il faut venir à moto.
Même à moto, on se fait aligner sur les trottoirs.
On est 6-7 dans
flics,
le...
C'est vrai.
On est tous d'accord que pour se garer, c'est pas facile.
Il y a le Caïman qui fait un bus, là. C'est voilà. Bien. C'est pas cher, et puis c'est bien.
Voilà. Je sais pas si tu connais le Caïman, Philippe, mais...
Mais chaque année, quand on est au courant...
Mais comme t'es dans le Nord, ici, maintenant, tu parles à des gens du Nord, donc voilà, quoi. Donc voilà.
J'ai une petite question.
Toute dernière question.
Au sujet des Indiana, il y avait bien une 4 cylindres, t'avais dit. C'est 4 cylindres en ligne, c'est ça?
Oui, 4 cylindres en ligne. Il y en aura même plusieurs.
Il y en a même plusieurs. Oui, ça a commencé vers les années 11, je crois, jusqu'aux années 30, je crois, il me semble.
Le 4 cylindres en lui-même, je pense qu'il faut plutôt attendre les années 20 pour le voir apparaître.
Ou alors je confonds avec Cleveland, alors il y avait un 4 cylindres en ligne FN aussi.
Très bien.
FN se commence beaucoup plus tôt.
Il
nous reste une semaine pour aller voir un petit peu la sortie de cette machine sur internet.
C'est une sacrée machine.
comme ça vendredi quand on va arriver, on va connaître les détails, l'année de naissance de cette machine. Voilà. Les infos pratiques, Philippe, donc vendredi à 11h, c'est ça?
Vendredi 11h.
Jusque 22h.
En nocturne. Ça, c'est la tradition. Vendredi, ça se terminait toujours en nocturne.
D'accord.
Le lendemain, on est de 10h à 19h. Et le dimanche, 26, de 10h à 18h.
Donc, très bien. Ouais. Le prix d'entrée est de 15 euros si on n'a pas réservé avant sur Internet, je crois, c'est ça?
C'est ça, ouais. Sinon, c'est 13 euros quand on est en pré-vente. Voilà. Et si on vient avec un enfant de moins de 12 ans, pour lui, c'est gratuit.
Voilà. Et nous, ici, à Radio Campus Lille, on a 4 entrées à offrir aux auditeurs.
Ah, ouais, bah, super.
Voilà. Et donc, on va lancer ça sur l'antenne, 0320 91 24 00. Si vous voulez aller, le week-end prochain, peu importe, hein, vendredi, samedi ou dimanche, si vous voulez aller au Salon Moto Légende à Paris, c'est Vincennes, c'est ça, hein?
Oui, voilà. Ouais.
Très bien. Donc, il faut mieux aller en moto parce qu'effectivement, pour se garer, c'est pas facile. Ou alors, avec le bus du Caïman, s'il reste de la place, Nicolas.
Ah oui, dans le bus du Caïman.
Il est complet. Oui, c'est complet. Alors, c'est pas la peine. Sur le toit, là, un peu comme en Inde. Voilà, très bien. Bon, voilà. Donc, 03 20 91 24 00, si vous voulez aller là-bas, au Salon Moto Légende. Merci, Philippe, d'avoir répondu à nos questions.
On se retrouve là-bas, alors.
Très bien. Et un bon week-end, un bon dimanche. Bonne fin de dimanche.
À vous tous aussi. Merci.
Merci, au revoir.
Merci.
There's plenty of us still left around, and we've seen our shit lowered in the ground. Work our jobs and raise our kids to show respect and don't take no shit. Yeah, one of a kind, hard-working, corn-fed American man.
Redneck metalhead.
Or digging a ditch, using their voice and raising up his. Be down or either on top of the world, laying in jail or maybe going to church. But there's something inside that's born and bred. He'll be
démarrez votre moto et vous êtes en direction de Paris. Vous allez au Salon Moto Légende le week-end prochain. Voilà. Et si vous voulez rentrer gratuitement, vous nous appelez au 0320 91 24 00 pour avoir une entrée gratos. Pas mal, Cédric.
Tu m'étonnes.
On va revenir un peu tout à l'heure parce que toi aussi, tu offres alors quelque chose. Hein, c'est une surprise. Hein, on va pas en parler tout de suite. On va en parler après la séquence. Là. On revient donc sur le MotoGP. On revient sur Dovizioso, hein, sur les Ducati. Bah, deuxième, et Lorenzo, deuxième quand même. Ouais, deuxième.
C'est vrai qu'il a fait un sacré bond en avant cette année, Dovizioso. Hein, on se souvient, l'année précédente, il fallait faire de la place pour Lorenzo. Alors, Ducati se posait la question de Yannone et de Vizioso, lequel on garde. Et Yannone avait de meilleurs résultats, apparemment, sur le papier, bien qu'il tombe plus. et qu'il ait un caractère un peu plus trempé. Hein. C'est rien de dire.
Il s'est effrité pas mal avec d'autres personnes. Donc,
vous avez fait le choix de Dovizioso, et c'était le choix de la raison, parce que Dovizioso, cette année, il est apparu vraiment comme un gentleman. Hein. Beaucoup, très posé, très souriant, beaucoup de recul sur tout, et une hargne sur la moto. Il faut se souvenir du Japon, par exemple, où sous la pluie, il s'est bagarré avec Marquez. C'était une bagarre incroyable.
Il y a eu deux fois il s'est bagarré avec Marquez, voilà. Et deux fois il a gagné.
Il a gagné au mano. Après il a fait la même chose sur le sec.
Tu parles en Australie, je crois.
Il garde la tête froide.
En Australie, sur le sec, et au Japon, sous la flotte.
Au Japon, sous la flotte. Là, c'est incroyable. Je sais pas si Cédric, tu l'as vu.
J'ai tout vu. J'ai vu toutes les courses.
Là, ce grand prix au Japon, c'est quelque chose.
C'était quelque chose.
Le dernier virage, là,
c'était. On parle souvent de Marquez qui se fait siffler par les fans de Rossi sur le podium, mais là, il y a eu des beaux gestes cette saison, et donc il faut les dire aussi. Justement, à l'issue de cette course au Japon, Dovizioso et Marquez sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et
ouais, se sont serrés.
C'était vachement poignant, parce qu'ils n'en revenaient pas d'être encore sur leur roue à l'arrivée, et après c'est une telle bagarre, et c'était quelque chose de sympa. Et puis il y a eu plusieurs fois dans la saison aussi des beaux gestes. On a vu à l'arrivée à Valence, toute l'équipe Ducati allait féliciter l'équipe Honda. Tout le staff, c'était sympa, c'était classe. Et puis pendant les essais hivernaux, il y a Rossi et Marquez qui ont pris le train de faire des tours lents devant Morbidelli parce qu'il arrive en MotoGP, pour lui montrer les trages de MotoGP, et c'était sympa. Il y a eu quelques beaux gestes, il faut le dire quand c'est comme ça.
Ce qui était émouvant aussi, c'est quand Dovizioso au Grand Prix de Valencia est rentré dans le box et il est fondu en larmes, et toute son équipe technique est venue le réconforter. C'était vraiment beau, c'était émouvant.
Est-ce que c'est victoire,
c'est bien, c'est bien pour le sport.
T'as un homme sensible en fait, Nicolas.
Très sensible à tout ça.
6 victoires de Dovizioso, autant que Marquez. Hein.
Autant que Marquez.
Non, il a fait une saison fantastique.
Il a vraiment une faculté, c'est garder la tête froide.
Moi, je voudrais parler quand même d'un pilote, le numéro 46, quoi. Je veux dire, alors. Parce que regarde, depuis tout à l'heure, on parle de Marquez, de Zarco, de Vi, et on n'a même pas encore parlé de Valentino Rossi.
Yamaha a eu un gros problème cette année, c'est sûr. Alors on comprend pas trop, parce que Vinales a gagné les deux premiers Grands Prix sur cette moto.
Vous avez vu la polémique de dire c'est pas normal à ce niveau-là de faire du motocross et de se péter la jambe.
Oui, mais tous les pilotes ont
se péter la jambe en plein championnat.
Ça fait partie de leur entraînement.
Il y a Cédric qui me fait un geste que je vais pas. Si vous êtes Facebook, vous voyez.
Non. Moi je suis pas d'accord.
Mais moi je peux pas le dire, c'est pas très pilote, radiophonique.
Déjà moi j'essaie de faire du VTT, mais être toujours sur du deux roues pendant les courses, entre les courses, pour essayer d'être toujours en relation avec le guidon, avec les deux roues. Et bah, lui aussi c'est encore pire, et tous les autres pilotes de MotoGP, c'est normal.
C'est pas normal.
Maintenant,
il faut entretenir les sensations, c'est normal, bien sûr que c'est normal.
Mais
par contre, le motocross c'est dangereux.
Aussi, motocross c'est dangereux, oui.
Et Zarco fait pas de motocross.
Il devrait manger du yaourt, parce que ça fait plusieurs fois qu'il se casse le tibia, j'ai remarqué.
Tous les pilotes, tous
les pilotes. À Misano, il y a 2-3 ans, il s'est cassé aussi le. Voilà.
Alors, il y a une petite déclaration de Biaggi où ça s'est réchauffé un peu avec Rossi, on dirait, où ils commencent à moins se détester. Oui. Et Biaggi a dit le plus grand ennemi de Rossi, c'est pas Marquez, c'est pas Dovizioso, c'est le temps.
Ah, pourtant lui.
Le temps.
Je sais pas si c'est
par
gentil.
Par rapport à son âge, c'est ça.
Oui,
je sais pas si c'est
très vite.
Mais on revient à son âge, il a quand même pratiquement 39 ans.
Ouais, il faut faire
donc,
vite.
Il faut pas oublier que forcément, quelqu'un à 39 ans doit se préparer deux ou trois fois plus que quelqu'un de 25 ans. Donc, c'est normal qu'il pilote entre deux, quoi.
Ce que j'aime bien, c'est Biaggi qui a dit ça, alors que son dernier titre, il a pris il y avait 40 ans.
40 ans, exactement.
C'est vrai. On parle aussi un peu comme ça. On dit, mais souvenez-vous, en début de saison, il était quand même, c'était lui qui était leader. Enfin, il n'était pas leader, il était. Il a été leader quand même pendant une ou deux courses.
Oui, légèrement.
Et donc, quand même, même s'il a 38 ans ou 39 ans, quand même, bon, chapeau bas quand même.
Oui.
Alors, c'est dommage qu'il lui arrivé cette histoire.
Et surtout, il a perdu sa dernière position au dernier Grand Prix avec la victoire de Pedrosa.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en début de saison, on a vu Yamaha qui quand même, était un peu plus que Honda, quand même, dominait un peu plus.
Bah oui, Vinales a gagné les deux premiers Grands Prix tranquille.
Et en milieu de saison, c'était l'inverse.
Ah, alors, si je me souviens bien.
Yamaha, c'est littéralement écrasé, mais. Et Honda qui passe. On s'est dit, tiens, on doit à des problèmes de mise au point, certainement, de châssis.
Si je me souviens bien, vous disiez au début qu'il y avait Vinales qui a écrasé tout le monde. Ouais. Moi, je dis, non, c'est Marquez qui va gagner. On m'a dit non. Mais c'est quand même Marquez qui a gagné.
Marquez, ça reste Vinales, le plus fort.
Il y a eu un trou. Trop, franchement, je ne m'attendais pas qu'il s'effondre comme ça.
Mais chez Honda, je ne sais pas s'il y a eu des évolutions cette année. Olivier, il y a eu des évolutions au niveau d'Honda cette année ?
Il y a eu quelques évolutions, mais c'est surtout le travail de Marquez qui fait la différence.
Ouais, c'est ça.
C'est surtout son pilotage.
Ouais, parce
lui, il s'est passé au-delà de la limite de la moto, de la limite technique.
Voilà.
Rien qu'à ses chutes, on le voit.
Bah oui, il est à la limite.
C'est chute la dernière
chute. Il n'est pas à 100%, il est à 120%.
Oh, mais l'année dernière aussi, il a chuté quand même.
C'est
pas
exactement
mal aussi,
ça.
Hein. Et la moto n'est pas si bonne parce que Pedrosa et Crutchlow ont du mal avec cette moto. Hein. Ils ont la même.
Tous les autres pilotes ont du mal.
Tu pensais un peu à Elwood.
Oui, Stoner.
Prendre une moto qui n'était pas forcément la meilleure du plateau, mais arriver à en faire ce qu'ils ont fait.
Compenser le reste.
Oui, mais sur le pilotage, s'adapter.
Ce qu'on a vu, sa chute à Valence, l'amorce de sa chute, son rattrapage, il le fait systématiquement aux essais.
Oui, régulièrement.
À chaque fois, il va aux limites de sa moto et il fait ça à chaque fois.
C'est devenu pas une technique. Il perd l'avant, mais il sait se rattraper.
Ça devient une technique. Alors maintenant, on roule sur le coude.
Mais on roule sur le coude.
Cédric, je ne sais pas si tu as déjà fait ça.
Non.
Il y a que t'as. Par expérience, on voit déjà que peut-être que tu as essayé là.
J'ai essayé à Seine et ça n'a pas bien fonctionné.
Vous qui êtes sur Facebook, on voit bien Cédric a essayé. Voilà.
Mais bon.
Voilà. Bon, alors peut-être que vous, chers auditeurs, auditrices, vous voulez devenir aussi Marc Marquez, Rossi, Zarco dans quelques années. C'est très simple. Cédric organise l'année prochaine quatre sessions, trois sessions sur les circuits.
Six, s'il vous plaît.
Croix-en-Ternois, Le Zen et Clastres.
Voilà, sur les trois circuits différents. Donc en fait, on est vraiment spécialisé dans les débutants. Donc n'hésitez pas, celui qui veut faire de la piste, à venir avec nous. Et là, donc on a plusieurs dates. Le 30 avril à Croix-en-Ternois, le 7 mai à Clastres, le 14 mai à Le Zen. Donc Le Zen, c'est bien pour les petits, pour ceux qui ont jamais roulé sur piste. Ça leur permet d'avoir un petit circuit, moins de stress. Encadré par 6 ou 7 pilotes confirmés. Donc c'est que du bonheur et on demande un tarif de 59€, assurance comprise. Voilà, donc c'est vraiment très raisonnable pour tout le monde. Le but du jeu, c'est de ramener le plus possible de pilotes sur la piste.
Mais aujourd'hui, tu proposes.
Voilà.
Vous êtes généreux là-bas au team.
On essaie. On a l'esprit motard, essaie de le garder et surtout de l'agencer à tout le monde. Ouais. Donc on offre. Alors attention, il y a quand même un petit jeu, un petit jeu concours tranquillos.
Tu offres une session de roulage.
Voilà,
c'est gratuit. Ce sera gratuit pour la personne qui va répondre à la question.
Voilà. Donc en fait, c'est une session de roulage qui pourra. Donc vous pouvez choisir tout le calendrier 2018 qui sera sur le Star Team Racing. Il faut que je vous pose la question. Donc en fait,
faut pas donner la réponse.
Je veux tout dire en même temps.
Est-ce que tu veux poser une question? Tu veux faire un jeu?
Donc le numéro de téléphone, tu lui diras, je ne le connais pas par cœur. Il faut répondre à cette question-là. À quelle place j'ai terminé aux 6 heures de Spa-Francorchamps 2017?
C'est compliqué, hein?
Tu crois que ça va répondre? Écoutez, on verra bien si on est suivi déjà.
J'ai un doute, hein?
Ouais. Et aux 500 km de météo.
Et alors, attention, parce qu'une fois qu'on a participé au stage, quand c'est terminé, là, on peut prendre éventuellement. Envoyer son CV au MotoGP à Pontcharral et dire ça y est, j'ai fait le stage de Cédric Ferré et maintenant je suis au top, je peux courir, participer en MotoGP.
Alors avant, parce que moi je connais très bien Hervé Pontcharral, j'ai encore eu au téléphone, je lui disais même que je passe à la radio ici et il vous fait tous un grand coucou en fait. Tous les CV passeront par moi et après je lui transmettrai.
D'accord. Alors pour une session gratuite, c'est 54€, tu m'as dit, c'est
alors
ça
59 à Le Zen, c'est 69 à Croix-en-Ternois et 65 à Clastres.
Mais là, c'est gratuit, ce sera gratuit.
Tout à fait.
Donc, vous répondez à la question. Donc, tu répètes la question, Cédric.
Donc, à quelle place j'ai terminé aux 6 heures de Spa-Francorchamps 2017 et aux 500 km de MTT? Donc, c'est deux endurances.
C'est pour les deux sessions, de gratos, deux questions.
Une session. D'accord. T'exagères un peu.
Il faut répondre aux deux questions.
Voilà, on répond aux deux questions.
C'est pas possible.
Alors,
s'il y a un auditeur qui téléphone, alors là, qui gagne?
Il y a déjà quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone. Non, c'est pas sur mon téléphone.
C'est sur le 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00. Tout de suite après le morceau. Dans le morceau de musique.
charm while we lay in the truck bed. Then you can lay on my arm while we drive off in the sunset.
Potes, hein. Oh, Cédric, hein, je vois que t'as du mal avec le poignet.
J'adore ça.
Voilà, je redonne le numéro de téléphone tranquillement, 03 20 91 24 00. Alors, donc, ça, le téléphone chauffe. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est des gagnants. Mais apparemment, c'est une surprise. Mais il nous reste encore des entrées pour aller au 20e salon Moto Légende le week-end prochain, vendredi, samedi ou dimanche. Donc, c'est le même numéro de téléphone, 03 20 91 24 00. Allez, on passe à la Moto 2, Nico.
Oui, donc, Morbidelli, champion du monde, hein, qui va retrouver son adversaire principal, qui était Lutti, qui s'est blessé en fin de saison. Mais il le retrouvera dans la même équipe, en fait. Hein. Ils vont être équipiers dans la même équipe l'an prochain en MotoGP. Et c'est vrai que Morbidelli, c'est un copain... en fait, le père de Morbidelli, c'est un copain du père de Rossi. Donc, c'est un petit peu le protégé de Rossi. Il suit toujours Morbidelli et il dit beaucoup de bien de lui.
C'est l'italien, en plus.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il est italien, mais il est aussi argentin, je crois. Donc, oui. C'est un argentin. Ouais.
La maman argentine.
Ouais.
Et Morbidelli, c'est un pilote de la structure à Rossi, en fait. Il fait partie du team.
Ça a été rattaché au VR46.
À V46.
Ouais.
C'est ça. Mmh.
Donc il a fait quand même 9 podiums, 3 victoires consécutives en fin de saison pour Oliveira en KTM. Donc là on sent que l'année prochaine, oui. KTM, ça va faire quelque chose. Hein. On rappelle, en Moto 2, c'est pour la dernière année le même moteur pour tout le monde, le 600 CBR Honda. Mais les cadres sont libres et c'est Kalex qui est un fabricant de cadres qui avait le châssis le plus courant et le mieux noté. Mais depuis que KTM est arrivé sur c'est sa première saison à KTM, hein, sa première saison, et dès la première saison, en fin de saison, ils ont trouvé une moto qui est très très performante, parce que Oliveira et Brad Binder, d'ailleurs, l'ancien champion du monde 2016 en Moto 3, hein, tous les deux sur KTM, ils ont fait 1 et 2 trois fois, hein, c'est pratiquement
sur les 3 derniers Grands Prix.
Ouais. Et donc c'est remarquable quand même. Et
donc justement c'est... que le châssis est très très bon. Là, c'est tout le monde. Il y en a beaucoup qui voudraient, et il n'y aura qu'une seule équipe qui fournira un autre châssis. Il y aura deux équipes avec châssis KTM.
Bon, ouais, voilà.
On continue avec les pilotes, hein, parce que sinon la CBR, c'est la toute dernière saison, hein, l'année prochaine.
C'est ça.
Le 600 Honda, ce sera terminé, parce qu'en 2019, on va retrouver quoi, le 3 cylindres Triumph.
Ouais. Voilà, c'est ça.
675 Triumph.
Qui sera plus puissant.
145 chevaux. Ouais.
Et surtout les assistances électroniques aussi.
C'est ça.
Les aides au pilotage. Ouais.
C'est une des raisons pour lesquelles ils veulent passer à un autre moteur, c'est que le Triumph, il a des assistances électroniques, il a l'antipatinage, il a des choses
comme ça. Il n'a pas actuellement sur le 600 CBR Honda.
Voilà. Et donc, ça serait mieux pour entraîner les gens.
Ce qui fait que les pilotes qui sont en Moto2, quand ils arrivent en MotoGP,
il y a
un moment de préparation pour pouvoir commencer à gérer un peu l'électronique.
Au niveau électronique, ils ne connaissent rien.
Aujourd'hui, techniquement, il n'y a que la Moto2 qui n'avait pas d'assistance. La Moto 3 avec de l'assistance, la Moto GP et pas la Moto 2.
Oui. Pour limiter les coûts. D'ailleurs, la Moto 2 coûte moins cher que la Moto 3.
Oui.
Ouais, c'est fou. C'est...
Et est-ce que c'est pas dû aussi aux pertes de vitesse des ventes de 600 chez Honda et les autres marques? Parce que je pense que les 600 maintenant, ça commence à être moins.
C'est vrai qu'il n'y a plus de modèle. Il y a plus de modèle.
Et ça sert à rien de développer des 600 si on n'en vend pas dans le commerce. Quoi. Donc,
ouais. Ouais, c'est sûr que Honda, ce moteur, ils le suivent plus, donc il faut trouver une solution de toutes les façons.
Une moto qui a 25 ans.
Ça fait 7 ou 8 ans qu'il n'y a plus d'évolution du tout au moteur Honda. Donc,
voilà, mais malgré tout, d'année en année, les temps sont meilleurs. Sur les mêmes circuits, ça veut dire que ce n'est pas le moteur, hein, puisque c'est le même depuis plusieurs années. Donc ça veut dire que les châssis évoluent, c'est incroyable.
Il faut rappeler ces tirs au sort, hein, c'est particulier hein, cette course de Moto 2. Hein. Les moteurs sont tirés au sort à chaque course.
Alors pas à chaque course, ou les 3 courses.
C'est pas, tu n'as pas le moteur toute la saison.
Non. Et ils sont préparés par une boîte qui le prépare tous ensemble et c'est tiré au sort effectivement toutes les 3 courses ils en démontent un de temps en temps.
Donc si un pilote gagne, c'est forcément sur la partie cycle alors qui est excellente ou alors après
sur son
pilotage. Hein.
Exactement.
Son
pilotage, ouais. C'est pour ça que c'est très dur de et ce qu'a fait Zarco, c'était deux fois être champion du monde d'affilée, ça n'a jamais été fait et c'est vraiment très dur puisque on a le même matériel que tout le monde.
On parle de notre Français qui a terminé 13e du championnat en moto 2,
Fabio Quartararo, ouais, il va rechanger de moto l'année prochaine encore une fois,
oui.
Ouais, encore un nouveau cadre. C'est dur.
Alors hein, c'est lui qui avait déclaré je la première année je serai champion du monde moto 3, et après je monterai en moto 2 et je serai aussi champion du monde et après je serai en moto GP. Ça fait quand même 2-3 ans qu'il est, il a fait 2 saisons en moto 3 je crois. Et
c'est tout l'entourage autour de lui qui a déclaré.
Hein, on lui met la pression.
Ouais. Et puis
surtout que comme rookie cette année il est le 3e, hein, faut pas oublier. J'avoue que la fin de saison, on voit qu'il s'est amélioré. Là, c'est bien. Il a réussi à terminer 13e, c'est parfait. Mais vu le nombre de points, il est loin quand même de Binder, qui était quand même
Brad Binder, il faudra se méfier en 2018.
Ça, c'est sûr. Il faudra se méfier.
J'ai le nombre de points sur l'ensemble de la saison.
Ouais.
Il a chuté presque 8 fois. Regarde, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 8 fois, il a chuté. Il n'a pas marqué de points. Ça, c'est pas bon quand tu marques pas de points autant de fois sur une saison.
Et De Oliveira, les dernières courses, c'est pas mal. Il faudra se méfier aussi pour 2018.
Je pense que. Alors, 2018, Moto 2, Nico.
Alors, 2018, en Moto 2, on va retrouver Oliveira sur la KTM.
Et notre petit nordiste. Non, mais en français.
Ah, en français.
Oui.
Quartararo, donc change d'écurie. Et puis, on a Danilo qui va monter sur une Kalex, lui, en Moto 2. Ouais. Pour son gabarit, c'est mieux, on verra bien, mais il va galérer. Hein. Aux essais qu'il y a eu à RRS.
Par contre, il y a deux grosses pointures qui vont monter aussi. Hein. Mir, qui est champion en Moto 3.
Voilà.
Je pense qu'il faudra se méfier de lui. Parce que vu la façon dont c'était sa deuxième saison quand il a été champion du monde, avec 10 victoires en Moto 3.
Record de victoires, record de.
Il tombe pas souvent non plus. Et c'est quelqu'un qui marche très fort. Hein. Ouais. Il marche très fort.
Et il y a Sam Lowe qui redescend du MotoGP.
Et
sur une KTM.
Et Barbara aussi.
Ouais, Rabat. Il repasse en Moto 2, Rabat, non?
Non. Sam Lowe. Et sur une KTM.
Ouais.
Donc, on verra bien.
On sait pas.
Très très bon.
Et il y a Alex Marquez aussi qui veut son titre. Parce qu'il a dit je ne monterai pas en MotoGP tant que je n'ai pas été titré en Moto 2. Ouais. Il a peut-être pas dû le lire. Mais ça va être dur à tenir parce qu'il y a du monde.
Il y a du monde.
En
Moto 2.
Il a toujours des résultats en Dancy. Alex Marquez, ça va mieux, mais c'est en Dancy. Et là, il a la 4e position en général. Mais il vise le titre, mais ça va être compliqué.
Je vais vous permettre de vous interrompre parce qu'il y a un gars qui va pouvoir mettre un CV à Hervé Poncharal, puisque tu connais bien Hervé Poncharal aussi.
Oui.
Et ben c'est la personne qui a répondu aux questions. Donc Cédric, tu peux donner la réponse à tes questions.
Donc félicitations à Nick. Nicolas. C'est une personne qui roule aussi avec nous.
Donc l'année prochaine, on va te retrouver en MotoGP, enfin après la session donc, de Cédric.
Donc Nicolas, tu seras avec Hervé Poncharal.
Ils sont bons.
Mais avant ça, il faut passer.
La passion avant tout.
Et voilà. Pourquoi pas? Bon, tous les rookies avec Pep Poncharal, ils montent devant.
Voilà. Bah, écoute, donc, voilà. Tu fais le stage et puis ça y est.
Nicolas avec un S.
Donc j'ai terminé au 6 heures de Spa à la 4e position et au 500 km de Mété, je suis monté sur le podium à la 3e place.
Eh ben, bravo Nicolas d'avoir répondu à aux questions.
Bravo Nico. Your bro, so don't call me brother, cause hoes they know I'm one bad motherfucker. Team supreme, so fresh, so clean, so pro, you know I'm like Mean Joe Green. Pass the peas, hold the cheese. You can roll with Rocker, you can swing on these nuts. Rocking all you bitches with the old school cuts. So please, please, please shut up. I got a lot of love, but I'm all out of fucks. Rolling like the Doobie Brothers, doing it my way, rocking down the highway, rolling right through you suckers, lame duck bitch ass broke my fuckers. White trash, come and say it to my face, bitch, and I fuck you in your ass quick with Taylor Swift's dick. They call me Nutty Professor, staring down the barrel of an old Winchester. Another big buck down, so fuck Lady Luck, I don't need her around. Wolfgang fucking, I ain't fucking around, straight laying it down while you're punching the clown.
Bon, on a parlé beaucoup MotoGP, Moto2, on vient de le faire. Il reste la Moto3.
Nico. Oui, donc Moto 3, ben, Mire, magnifique Mire, hein, dans la ligne de Mire. Mais c'est vrai que.
Ouais. Elle est bonne celle-là.
On a dû lui faire et refaire.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est vrai que dans la ligne,
c'est spontané en plus.
Ça le fait pas. C'est pas pareil.
Alors moi j'aime bien les statistiques. Il avait gagné 10 victoires. C'est exactement pareil que Gresini et Marquez. À la même époque. C'est les seuls qui ont gagné 10 victoires sur une saison. Et il a failli gagner la 11e, hein, puisqu'il était en tête avec celui qui a gagné.
Oui, il s'est fait pousser par Rodrigo.
Il est parti dernier
et il est arrivé sur le podium.
Et il est arrivé sur le podium.
Ah, ouais. Il a fait une remontée fantastique. Hein. Et c'est vrai que sans ça, il aurait battu le record qui est celui de Rossi, je crois.
Rossi, hein, avec 11 victoires.
En 125.
Le seul.
En 125. 11 victoires. En 125 à l'époque.
Le plus de points, record le plus de points dans une saison. Mire.
Ah, c'est possible.
Moi, j'ai le classement des trois catégories. Là. Regardez, quand on regarde les drapeaux, hein, c'est espagnol, italien.
Il n'y a pas photo.
Là,
toujours. Mais il y a un petit drapeau français qui boit son nez.
Il y a un petit
drapeau
français qui boit son nez, effectivement.
Et il y a aussi à Valence, il y a Jorge Martin qui a gagné. Ouais. Et lui, il a quand même fait une drôle de saison. Il a décroché 9 pôles. Il a eu 9 podiums, mais il a jamais gagné. Et juste à Valence, le dernier Grand Prix, il gagne. Et donc Jorge Martin, ça va être un client, je pense.
Il est quatrième.
Ouais. Et c'est vrai que Mire, il va faire quelque chose parce que Mire, c'est.
Oui, Mire, il monte, donc il sera. Il monte en moto 2.
Déjà en moto 2, il comprend très vite. Donc je pense que ça va être un excellent pilote, Mire. Il a quelque chose.
Et il monte avec quelqu'un d'autre aussi qui marche bien, Fenati.
Fenati,
ouais. Moto 2 aussi.
Pilote Valentino Rossi.
Sous la pluie, il nous a impressionné aussi. Les deux fois.
Fenati, il s'est engueulé avec Valentino Rossi.
Ah oui, il s'est disputé.
Il a été viré. Ouais. Fenati, c'est un show. Mais bon, il a dit.
Par contre, cette année, KTM s'est effondré en 125. Ouais, enfin, en 125, ouais. Pas en moto 3.
KTM, c'est la seule marque à être présente dans les trois catégories, hein, puisqu'ils ont leur cadre en moto 2 qui marche très très bien. Ils ont en MotoGP, c'était leur première année, et ils sont pas ridicules du tout. Hein, ils ont fait quelques top 10. Et par contre, ils ont dû lâcher, à mon avis, financièrement, le moto 3 parce que là, ils sont plus dans le coup.
Et j'ai une question concernant la moto 3.
Oui.
On se posait la question l'autre jour, mais est-ce qu'il y a de l'électronique? Est-ce qu'il y a de l'antipatinage sur du Moto 3?
Oui, il y en a, oui.
D'accord, mais pourtant, là, à Valence, il y en a beaucoup qui se sont volés.
Il y a le technicien alors, qui peut répondre.
Ouais, Olivier, dis-nous.
Oui, non, mais toutes les écuries ne l'ont pas, mais ils peuvent l'avoir dans le règlement, ils ont le droit de l'avoir.
D'accord, donc tout le monde n'est pas équipé.
Ouais.
D'accord. Impressionnant.
Mais Mahindra, cette année, nul. Enfin, ils n'ont vraiment rien fait. Est-ce qu'ils vont. De toute façon, ils quittent.
Oui, il faut pas
jamais les prochaines. Ouais.
La première fois, Mahindra, c'est Peugeot. Ça a été racheté.
Ouais. Il faut pas oublier aussi que pendant toute l'intersaison, KTM a presque dominé Honda. Et Honda a sorti son modèle, juste son nouveau modèle, avant le premier Grand Prix.
Et après, on peut pas être partout, on peut pas développer du GP, du Moto 3, il faut centrer sur une catégorie.
Mais c'est vrai qu'il y a un souci, le premier KTM, c'est Ramirez, il est 8e.
C'est Mignot. C'est pas Mignot, 8e?
Oui.
Il me semble que c'est Mignot.
Le premier KTM?
Ramirez est 9e.
Non, c'est Ramirez.
C'est Ramirez? Ouais. Bon, ok.
Voilà, donc, on parle de notre parce qu'il nous reste 10 minutes, on a encore beaucoup de choses à dire. De notre Jules Danilo, notre ch'timi, hein, notre pilote ch'timi là, qui a fini 21e au championnat.
Oui, qui a du
mal. Donc on en a parlé, qui va monter en moto 2 donc l'année prochaine.
Ouais. Et oui, il monte en moto 2 l'année prochaine. Ça va être compliqué pour lui aussi. Et puis après, c'est vrai qu'on peut parler un petit peu des transferts. C'est vrai que c'est toujours pareil. On va avoir un Belge en MotoGP.
Alors tu veux parler de quoi? Parce que là il y a un sujet très chaud, je pense que je voudrais épineux. Oui,
c'est
épineux.
Le sujet qui va.
Tu parles de quoi là, Nico? Là on change la Moto 3, on revient en MotoGP, c'est ça?
On parle de transfert de la saison prochaine. Et c'est vrai que il y avait un Belge qui était en Moto 2 et qui va passer
Xavier
en MotoGP.
Siméon, c'est ça.
Xavier Siméon, voilà. Alors, il a des bons copains, lui. Il connaît Tachny, là, celui de Mété, là. Tu connais, hein,
Oui, tout à fait. Donc, Siméon, oui. Xavier, je le connais bien. Une personne très, très gentille. Forcément, je pense que l'argent aide. Mais voilà, après tout dépend ce que vous pouvez penser à ça. Moi, je pense que bon, il peut tenter sa chance
et essayer d'avancer. Faut replanter le décor correctement.
Ouais, je sais.
Voilà. Mais bon, voilà. Siméon, c'est un bon pilote, mais je suis désolé.
Depuis
qu'il est en Moto 2, je suis désolé, mais
Il a gagné un Grand Prix.
Oui, bon. Attendez. Donc là, on vire base. Hein, les deux pilotes d'ailleurs. Et on va faire monter donc deux autres pilotes parce qu'ils ramènent 1 million d'euros.
Ouais, c'est ça.
C'est 1 million d'euros. Alors donc en fait, en gros, ils achètent leur place. C'est ce que je comprends.
Ouais.
Donc on va faire venir en moto la moto GP, donc la catégorie reine où on doit avoir les meilleurs pilotes. Alors maintenant toi tu vas arriver. Cédric, Nicolas il va faire son stage, et puis s'il est très riche, Nicolas, il va dire moi je ramène 2 millions, j'ai fait le stage de Cédric, et ben vous me donnez MotoGP. Voilà.
Nicolas, t'as du
j'ai
coup.
2 millions. Nicolas, t'as du boulot.
Mais vous savez, dans toutes les catégories.
Qu'est-ce que vous en pensez,
ça, hein.
Non, oui, c'est pas normal.
Dans les times.
Alors, ça c'est beaucoup en Formule 1, il paraît. Hein.
Ouais, donc il va ramener de l'argent, ça permet de remplir la grille. C'est vrai que c'est plus les meilleurs pilotes du monde qui s'affrontent. Voilà. Il y a quand même les meilleurs pilotes du monde qui sont là, plus des autres.
Mais ils vont se faire mettre un tour à la fin.
C'est vrai. On sait pas qui va gagner le prochain Grand Prix. Le prochain MotoGP, on pense que ça va être Marquez, mais on est sûr déjà que le dernier, on connaît.
Vous êtes pas sûr à 100%.
Faut pas oublier ce qu'il a fait quand même en Superbike. Hein. Voilà, il était avec le team Alstar, il faisait des très très bons résultats.
Regardez.
Maintenant en Moto 2, c'est quand même différent. Moi, il faut savoir qu'il passe de 1000 cm3 à repartir en Moto 2 avec peut-être des résultats que c'était pas très onéreux. Mais je pense que repartir sur une catégorie quelque part 1000, je pense que ça va l'aider. Il va revenir sur des modèles qu'il connaît bien.
Gagner deux fois en Moto 2, deux fois champion du monde. C'est normal qu'il monte après en MotoGP.
Oui, je peux comprendre.
On voit bien qu'il domine la Moto 2, donc forcément.
Il mérite sa place.
Il mérite sa place.
Ouais.
MotoGP, Morbidelli qui monte aussi, donc il mérite.
C'est ça. Lutti également.
On a les meilleurs, on a le top du top des pilotes en MotoGP. Ouais. Et pas des mecs qui viennent avec du pognon, avec un chèque, qui disent moi je prends une moto, tiens je te donne. Et le team qui dit bah oui je prends, et puis. Mais qu'est-ce qu'il va faire quoi le team
la miche. Je suis d'accord, mais ça aurait pu être pire, je me suis dit, parce que cette année, j'ai vu un truc encore plus dingue, c'est Yamaha qui essaie de construire un robot pour battre Valentino Rossi.
Bon, le robot n'a pas encore battu Valentino Rossi, mais ça va évoluer.
Imagine, un jour, t'as un robot qui est champion du monde. Vaut mieux finalement que ce soit un Belge qui ramène...
C'est vrai, glisser un petit mot aussi. On a Zarco.
On a plus le temps de passer de la musique. On va parler.
On a Zarco qui fait des courses magnifiques, qui est en tête tout le temps. Et on
n'a
pas un mot. On n'a pas un mot dans,
sur les grands,
sur les grands prix, dans les chaînes sportives.
C'est vrai.
Et le jour du Mans, le soir même, on n'avait rien.
Mais il y avait Campus.
Football, tennis.
Mais Nicolas, il y avait Campus.
Il n'y a que Campus pour en parler. Et heureusement.
C'est déjà bien.
On est champion du monde en enduro, on est champion du monde.
Super sport.
Je ne suis pas d'accord. On peut avoir
un champion. On a un champion du monde.
En Belgique. Mais
un peu de silence, messieurs.
Grâce aux Belges.
Je vais devoir mettre des coups de règle. On a un champion du monde en super sport. On n'en a pas parlé nulle part dans la presse. C'est incroyable, quoi.
Lucas Mayas,
qui a gagné donc le champion du monde super sport cette année.
Qui a été champion de France superbike.
Et voilà.
C'est sa première saison en complète en motosport.
Mais il a été champion de France.
Donc encore un pilote qu'on risque de voir arriver donc peut-être en moto 2.
Non, peut-être pas. C'est ce qu'il dit. Il a déjà essayé. Pour lui, c'est pas du tout la même catégorie.
Surtout un pilote qui a goûté à toutes les disciplines.
À toutes les disciplines, ouais.
Toujours sur la photo, vous voyez, tu peux le montrer sur Facebook, il est heureux. Montre-le sur Facebook. Voilà.
Il est heureux et nous aussi.
Et nous, voilà. Voilà, en cette date. Voilà. Et on revient un petit peu donc, sur le championnat 2018. Il va y avoir un Grand Prix de plus. Nicolas, tu disais que les pilotes commencent à râler un peu quand même.
Bah, les pilotes, ça va commencer une semaine avant. Parce que ça commence à faire beaucoup, ça va faire 19. Après, ils parlent de 20. Et j'ai même entendu qu'ils diraient 22 Grand Prix. Donc l'intersaison.
Là, ça va. ça va faire chaud.
L'intersaison va être courte.
Et on finir par le faire deux ans.
Pas beaucoup, ouais, pas beaucoup d'essais en plus. Ils ont de moins en moins d'essais. Donc ça commence à râler. Et ça doit être surtout éprouvant physiquement.
Ça, psychologiquement, oui. Et donc aussi, ce fameux circuit, il n'est pas terminé, hein, donc en Finlande, hein, c'est à côté, c'est 200 ou à 100 km de Helsinki, donc en 2019 ou 2020, donc ça ferait un circuit de plus encore.
Bah oui, ça ferait un circuit de plus.
Et l'avantage, Nico, c'est que tu dis, on pourra aller aux éléphants on pourra aller voir le Grand Prix.
Nous, on va aux éléphants tous les ans, donc partir un petit peu en rond, on fera le GP, puis on reviendra par les éléphants.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça devient infernal, la vie de motard. Tous les week-ends, on a des choses à faire.
Par contre, on a toujours 4 Grands Prix en Espagne.
Nous n'avons pas des vies faciles. Ouais. Hein, je dis, voilà. Nous n'avons pas des vies faciles, mais autant en profiter parce que...
Et il paraît que c'est déjà presque plein pour le Grand Prix de France l'année prochaine. Donc il faut se dépêcher de réserver ses places.
Valencia,
c'est dingue.
110 000 personnes à Valencia.
Ouais, ah d'accord. Alors messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer.
T'es enceinte.
C'est qu'il y a un ami belge qui se révolte sur Facebook.
C'est normal, moi je suis d'accord avec eux. C'est
parce qu'il dit c'est pas normal que vous parliez comme ça de Xavier Siméon, après tout. Je sais pas, Nico, qu'est-ce que t'en penses? On maintient nos dires?
Bah non, mais enfin, on verra. La balle est dans son camp. Hein,
la balle est dans le camp des Belges.
Voilà.
Il va arriver à vous faire mentir, vous
verrez. Oui, peut-être.
Il ne faut pas d'incident diplomatique avec la Belgique. Surtout.
Non.
J'ai mangé mes frites tous les samedis soirs.
Nous aussi. De toute façon, on va toujours manger des frites en Belgique.
Je pense qu'il est capable d'étonner beaucoup de gens.
C'est ça.
Et en plus, quand on parle de pognon, il y a toujours eu du pognon. Même les privés, ils étaient obligés d'en chercher. De toute façon, celui qui avait le moins de pognon, il n'y avait pas la bonne bécane.
Combien de pilotes MotoGP n'est pas obligé de venir avec de l'argent pour pouvoir rouler. Il n'y a pas 10 pilotes dans le paddock GP qui ne ramènent pas de l'argent.
On a vu beaucoup de pilotes s'arrêter à cause de ça.
On est d'accord.
Il n'y a qu'une dizaine de pilotes qui ne payent pas, justement.
Oui, voilà.
Oui, mais alors, j'avais une interview qu'on n'a pas le temps de passer de Randy Dupigné qui dit effectivement, moi, quand j'ai monté en MotoGP, j'ai ramené de l'argent. J'ai ramené 30 000 ou 50 000 euros. Mais il dit là, 1 million, c'était impossible. J'aurais jamais pu ramener 1 million d'euros. 1 million d'euros, vous rendez compte? Cédric, on suppose que demain, on dit ok, on le prend, mais il faut que tu ramènes 1 million d'euros. Tu les as?
Possible. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Belgique, il y a combien de pilotes belges qui roulent dans ces catégories-là? Il n'y en a qu'un. Donc forcément, il y a toutes les entreprises qui se mettent.
Il y a même des Français qui ont roulé sur le championnat belge.
Ouais, c'est vrai. Et puis c'est pour ça que moi je peux pas parler
des
Belges parce que je suis champion de Belgique en 2012.
Et oui, champion de Belgique en 2012, effectivement.
Champion de Belgique, ils sont français.
Donc il faut plus ne dire rien.
Donc eux, ils sont pas sectaires, ils acceptent les Français qu'ils puissent rouler chez eux. Inversement, c'est pareil.
Et il y a le tchèque Karel Abraham qui paye aussi sa place. Son père a beaucoup d'argent, mais il est pas ridicule.
Oui, mais encore à la limite, je parle de béton 50 000, 100 000. Mais oui, après, on va des 1 million, 2 millions d'euros.
C'est beaucoup dans un circuit.
Et donc, je reviens, puisque Nicolas va aller forcément l'année prochaine au Grand Prix de France. Est-ce que tu connais la date? C'est le 20 mai.
Non, mais j'ai déjà le tarif.
T'as déjà ton ticket.
1 million.
Tu vas aller, voilà. Très bien. Et bientôt, peut-être qu'on trouvera un Grand Prix de Belgique, hein, parce qu'avant, c'était à Spa-Francorchamps. Et ça fait bien des années qu'il n'y a plus de Grand Prix en Belgique. Hein,
c'est bien dommage.
C'est bien dommage.
Ouais.
L'émission se termine. Écoutez, on a passé un bon et un très bon moment ensemble. Merci Cédric. Fais attention à Nicolas. Là,
oui,
pousse-le pas à 120%
Qu'il reste bien sur ses roues. On va le préserver pour après le GP.
Voilà, très bien.
Je tiens à remercier tous mes sponsors, mes partenaires et mes deux motoclubs de Motoclub de Pécancourt.
Oh, Pécancourt,
t'as une belle casquette. Et le SCEA. Voilà.
Merci Claude. Au mois de mars pour faire pour les saisons 2018. Olivier, merci pour la compétence technique.
Tout
ce que tu as pu nous raconter sur la technique. Nicolas Poiret, super. Hein, encore
merci, bon dimanche à tous.
Nicolas, bon Grand Prix de France pour l'année prochaine.
Merci la Miche, à toute l'équipe de m'avoir reçu. C'est très gentil à vous.
Et notre Jean-Pierre Bonduel, qui a pas parlé beaucoup, mais est arrivé en retard.
Merci.
Merci Laurent.
À votre service.
Salut.